Pendant les mois qui suivirent, Malissoff fit à Madame Berlaguine deux visites, trois visites, cinq visites, puis les visites tombèrent les unes sur les autres comme des capucins de cartes, et il s'écoula point de jour qui ne réunit les amis, soit chez la mère d'Eugénie, soit ailleurs. Bien des mères eussent témoigné leur satisfaction en présence de ces signes non équivoques d'attachement naissant, mais Madame Berlaguine avait beaucoup trop d'esprit pour en agir ainsi. Loin de se montrer plus empressée avec Malissoff, elle sembla au contraire lui montrer une légère froideur, en même temps qu'elle éloignait soigneusement de sa maison tous ceux qui auraient pu effaroucher le diplomate. Point de jeunes gens, seuls de rares propriétaires, déjà vieux et parlant de préférence agronomie après dîner, sujets à s'endormir dans leur fauteuil entre les fruits et le thé, et enclins à se réveiller en sursaut en demandant pourquoi on ne fait pas une petite partie de whist. Point de jeunes filles, pas de jeunes femmes, mais le plus souvent possible, l'adorable Pélagie. Celle-ci avait entamé un siège en règle à l'égard de Malissoff. Ses femmes de chambre passaient les nuits à lui inventer des coiffures et les journées à lui repasser des robes. Elle arriva un jour vêtue d'une robe rose pâle sur laquelle on avait drapé à la grecque une espèce de tunique de filet brodé. Madame Berlaguine soupçonna toujours cette tunique d'avoir été rideau de fenêtre dans son jeune temps. Des nœuds roses agrémentaient le tout, et Pélagie elle-même avait si bien l'air d'une vieille rose de l'an dernier que Mademoiselle Eugénie ne put s'empêcher d'exécuter de son index malicieux les premières mesures de la célèbre romance « La dernière rose ». Cette fantaisie lui valut un coup d'œil foudroyant de sa mère qui lui fit prendre la fuite. Malissoff, étouffant ses rires, la rejoignit dans le jardin et ils se mirent à faire le tour d'un antique bosquet de tilleuls encadré dans une de ces vieilles charmilles d'acacia jaune qu'on n'en trouve que dans les jardins des seigneurs en Russie. Eugénie était loin de décourager Malissoff. Avec lui, elle était tour à tour sérieuse ou enjouée, mais toujours naturel. Il en savait certes plus long sur les pensées secrètes de la jeune fille que personne au monde, et cependant, ce n'était pas l'intimité qu'il avait rêvée. On ne sait quelle barrière se dressait entre lui et la confiance parfaite. Au moment où il se sentait prêt à dévoiler ce qu'il éprouvait de confus et de tendre au fond de lui-même, un regard réservé, un silence, un geste, l'avertissait qu'il ne devait pas s'aventurer sur ce terrain. Malissoff n'avait guère fréquenté de jeunes filles et son embarras à présent était le châtiment de sa vie passée. Les hommes du monde, les meilleurs, s'entend, passent leur vie à courtiser les femmes mariées ou déclassées. Pourquoi s'étonner alors que la plupart d'entre eux se trompent d'une manière irréparable en se mariant aux premiers cheveux gris? Les malheureux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut avouer aussi que, bien souvent, la punition serait hors de toute proportion avec le crime si on ne la considérait comme une expiation des fautes passées, de celles que le monde excuse et qui désagrègent lentement la famille. Malissoff, depuis sa 18e année, n'avait jamais adressé la parole à une jeune fille, sinon pour lui dire « Oh, vous êtes le vivant portrait de madame votre mère !» ou bien « Oh, j'ai beaucoup connu votre père, nous avons été grands amis !» Ces communications, une fois faites, il ne s'occupait plus de la demoiselle autrement que pour lui adresser un salut respectueux, accompagné d'un sourire paternel. Eugénie était donc pour lui un mystère vivant et charmant. Un de nos romanciers modernes a écrit un jour: qui peut contempler sans frémir cet abîme couvert de fleurs qu'on appelle une demoiselle à marier? Malissov voyait bien les fleurs, mais l'abîme restait invisible pour lui. Le jour que Pélagie arbora cette illustre robe rose pâle, qui faisait un cadre si malencontreux à son visage couleur de lin cru, Anton Pietrovitch admirait plus que jamais les lianes et les églantines, voiles du précipice en question. Eugénie était si simple, si jolie dans son petit costume de couleur indécise, toute sa personne respirait tant de candeur et d'innocence que notre héros se sentit disposé à l'éloquence. « Mademoiselle, dit-il d'une voix moins ferme qu'il ne l'eût voulu, êtes-vous heureuse ici ?» Eugénie leva sur lui ses yeux calmes et répondit sans trouble: « Oui, certainement. Mais n'avez-vous jamais rêvé autre chose ?» continua Malissov. La jeune fille ne répondit pas d'abord, une teinte plus rosée colora ses joues. « Mais comment l'entendez-vous » dit-elle enfin. Malissov recula devant une question plus précise et prit un biais. « La vie de campagne vous plaît-elle? N'aimeriez-vous pas mieux habiter les villes ?»« Oh, je ne suis pas ambitieuse, » répondit simplement Eugénie. « La vie est bonne partout, pourvu qu'on soit heureux en famille. » Le cœur de Malissov bondit dans sa poitrine. Depuis bien des années, il n'avait éprouvé d'émotion aussi vive. Cependant, il sut garder un visage impassible. « Alors, dit-il, le mariage ne vous fait pas peur ?» Eugénie ne dit rien. « Mais le mariage, reprit-il, c'est-à-dire la vie complète, la confiance mutuelle, le partage des joies et des peines, qui double les unes et adoucit les autres. Mais, continua-t-il, les jeunes filles ont peut-être une autre idée du mariage. » « Non, c'est bien ainsi que je le comprends, » répondit Eugénie, les yeux baissés. Ah, si Malissov avait pu lire dans son âme le nom de l'homme avec lequel elle rêvait de faire le chemin de la vie. Mais emporté par son idée, il fit comme tout le monde et partit sur une fausse piste. « Avez-vous un peu d'amitié pour moi ?» reprit-il, liant dans son esprit cette question en apparence décousue avec son discours précédent. « Mais beaucoup, » répondit sans hésiter la jeune fille qui rougit. « Et de la confiance ?»« Oui, je crois que vous êtes bon et qu'on peut compter sur vous. » « Merci, » dit Malissov ému. Il prit sa main et la porta à ses lèvres. Au même moment, un grand bruit de jupe empesée se fit entendre derrière la charmille, et Pélagie déboucha sur eux. « Oh, je vous y prends, monsieur le diplomate, à confesser les petites filles !» s'écria cette judicieuse personne du haut de sa voix pointue. Madame Berlaguine, en mère prudente, arrivait sur ses talons à toute vapeur, mais elle n'eut à sauver aucune apparence. À son grand regret, peut-être. « Mais on ne confesse pas les anges, mademoiselle Pélagie, » dit Malissov, vexé. « Mais si vous voulez bien m'accepter pour directeur spirituel, nous allons faire le tour de vos péchés mignons. »« Ah, cela veut dire, » riposta Pélagie, « que je ne suis pas un ange, moi. »« Soit, monsieur l'ambassadeur, j'accepte l'épigramme, et je vous somme de tenir parole. » Est-ce l'idée des péchés mignons de Pélagie qui effraya madame Berlaguine, toujours est-il, qu'elle emmena sa fille et laissa en tête à tête le couple mal assorti. Ils marchèrent en silence pendant quelques secondes, tournant toujours autour de la charmille, déjà jaunissante. Malissov, furieux d'abord de se voir interrompu en si beau chemin, avait fini par se réconcilier avec l'interruptrice. Une démarche décisive est chose si redoutable qu'il faut être enragé pour ne pas bénir en secret, après réflexion, la main de la Providence qui vous a arrêté au seuil de l'abîme. Et Malissoff n'était pas enragé. « Ah !» soupira Pélagie, « vous ne comprenez pas les choses du cœur. »« Hein ?» fit entendre Pietrovitch tant soit peu abasourdi. « Non !» reprit la demoiselle, « qu'il n'était pas facile à démonter. Vous autres hommes, vous avez le cœur sec comme de l'amadou. » « Et aussi facile à enflammer !» répliqua Malissoff, naturellement prompt à la riposte. La demoiselle sourit d'un air satisfait. Elle aimait ce genre d'escarmouche. « Ces passions-là ne sont que des feux de paille, » reprit-elle ensuite. « Mais je parle des affections sérieuses, celles qu'on éprouve à l'âge où l'on sait se rendre compte de ce que l'on ressent. Au mien, par exemple, » fit Malissoff d'un air innocent. « Oui, » murmura Pélagie, « c'est lorsqu'on a passé le premier printemps de la vie, lorsque l'âme a jeté son premier feu, qu'on connaît le vrai bonheur d'aimer. « Mais racontez-moi vos amours, mademoiselle Pélagie, » dit Malissoff, saisi par cette drôlerie, si naturelle aux gens gais par nature et que leurs occupations forcent à revêtir une apparence sérieuse. « Mes amours !» s'écria la demoiselle offusquée. « Mais combien de fois vous figurez-vous donc que j'ai aimé ?»« Bon, je n'en sais trop rien, » pensa le diplomate à soi. « Au train dont tu y vas, tu pourrais compter par centaines. » Mais cette réflexion ne dépassa pas ses lèvres. « Parlons des amours des autres, » dit-il. « Ce sujet est plus fécond en appréciation d'ingénieuse, et vous avez tant d'esprit, mademoiselle Pélagie. » La vieille fille, encore à moitié fâchée, sourit à ce compliment, mais secoua la tête négativement. « Les hommes sont tous les mêmes, » dit-elle avec un enjouement qui n'excluait pas l'amertume. « Ils ne veulent pas traiter les femmes en personnes raisonnables, et eux-mêmes. » Elle leva les mains au ciel pour le prendre à témoin de la folie masculine. « Je l'ai rencontré, » continua-t-elle, « qu'un homme vraiment sérieux jusqu'ici. »« Moi ?» dit Malissoff, qui reçut en réponse un coup d'éventail sur le bras. « Non, 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 un jeune et charmant garçon, le fils d'un petit propriétaire voisin qui a vendu son bien l'année dernière à Madame Pajaroff. Oh, c'est un tout jeune homme, beau comme le jour. Pélagie en avait l'eau à la bouche, des yeux fendus en amande, des dents blanches, une barbe blonde douce comme de la soie. Malissoff eut envie de lui demander comment elle avait eu connaissance de ce dernier détail, mais il se retint de peur d'arrêter les confidences. « Eh bien, » continua Pélagie, sans reprendre haleine, « c'était un jeune homme sérieux. Il n'a fait la cour à aucune femme ni fille pendant les 3 années que je l'ai connu, beau et insensible. » « Comme le farouche Hippolyte, » conclut Malissoff. « Mais, mademoiselle Pélagie, je ne saisis pas bien la liaison de vos idées. Vous disiez tantôt que les hommes ne savent pas aimer sérieusement. D'accord. Mais quand ils n'aiment pas du tout, est-ce alors que vous les trouvez sérieux ?» Pélagie détestait par-dessus tout se rendre compte de quoi que ce soit. C'était pour elle un travail au-dessus de ses forces. « Mais je vous dis qu'il est charmant, » répéta-t-elle, avec l'entêtement d'une mule butée contre un mur. « Du reste, vous en jugerez vous-même, il viendra la semaine prochaine chez Madame Pajaroff, qu'il adore. » Un domestique vint à leur rencontre et coupa les confidences de Pélagie. Ils rentrèrent pour prendre le thé. Mais elle lui garde d'oublier sa nouvelle. Un cancan est chose assez précieuse à la campagne, pour qu'on en tire tout le parti possible. Elle se bourra d'abord de deux tartines, puis parla. « Nicolas Markov arrive lundi, » proclama-t-elle entre deux gorgées de thé. Madame Berlaguin posa sur le plateau la théière qu'elle tenait à la main. « En êtes-vous sûr ?» dit-elle d'un ton plus aigre que de coutume. « Vos nouvelles ont parfois sujet à caution, ma chère. »« Pas celle-là, toujours !» s'écria Pélagie, piquée au vif. « C'est Madame Pajarov qui me l'a dit ce matin. Il m'a écrit hier. » Eugénie prenait son thé par petite cuillerée d'un air indifférent. Sa mère la regarda à la dérobée, ouvrit la bouche pour faire une question, puis la referma judicieusement. « C'est un héros de roman, paraît-il, ce jeune homme ?» demanda Malissoff. « Bon, je ne sais ce que ces dames lui trouvent de si particulier, » répliqua Madame Berlaguin, du même ton cassant dans sa bouche. « Pour ma part, je suis loin de l'admirer. C'est un ours mal léché, un ambitieux, un sournois, qui ne dit rien à personne. »« Ah !» fit Pélagie, qui faillit s'étrangler en buvant, tant elle se pressa de parler. « Je vous y prends à blâmer ceux qui ne racontent pas leurs affaires. Pourquoi alors méprivez-vous ceux qui les racontent ?» Madame Berlaguin fit un geste dédaigneux et ne releva pas le dégant. « Vous me donnez envie de connaître cet ambitieux, » dit Malissoff. « Les ambitieux sont généralement des êtres tout à fait nuls. Ou bien des gens supérieurs par un point quelconque et qui ont conscience de leur insupériorité. » Ceux-ci ne sont pas ambitieux, bien que le monde les confonde avec les autres. Une controverse s'engagea sur l'ambition en général, et les deux dames s'y enferrèrent à qui mieux mieux. Eugénie leva sur l'orateur un regard si reconnaissant, si affectueux, qu'il en fut ébloui. Ce regard de femme réfléchie lui donna beaucoup à penser pendant les deux jours qui suivirent. Il eût voulu la revoir, causer longuement avec elle. Son désir de l'épouser se formulait nettement devant lui. Cette jeune fille n'était-elle pas précisément la femme qui lui convenait? Sa famille à lui l'eût désirée, plus riche, ses amis l'eussent voulu d'une origine plus brillante. Mais Malissov se disait, non sans raison, qu'on se marie pour soi, au moment où, pour la première fois, il éprouvait le besoin d'une famille, d'un intérieur. N'eût-ce pas été folie que de se laisser arrêter par des considérations purement mondaines? Il voulut cependant prendre conseil, et comme il ne connaissait pas de jugement plus sûr dans sa forme bourrue que celui de Madame Pajarov, c'est elle qu'il se décida à consulter. 4 ou 5 jours s'étaient écoulés quand Anton Pietrovitch, vêtu de neuf, paré, pimpant, ganté, comme on ne l'est guère à la campagne que les jours de fête paroissiale, fit atteler sa meilleure troïka à la calèche et se rendit chez sa vieille amie. « Oh, mon Dieu !» s'écria celle-ci en le voyant entrer. « Vous partez pour Pétersbourg ?» « Non pas, rassurez-vous, » répondit Malissov, un peu embarrassé de l'effet inattendu qu'il produisait. « Général !» s'écria la bonne dame. « Au secours, il veut m'enlever !» Le général grogna quelques mots du fond de son fauteuil à oreillette, tendit une main paresseuse à notre secrétaire d'ambassade et repartit pour le pays des rêves. « fit Madame Pajarov. « Si j'avais besoin de secours, pourtant, voilà bien les maris. » Un beau jeune homme, aux yeux noirs, à la barbe blonde, entrait dans ce moment. Malissov reconnut l'original du portrait décrit avec tant de complaisance par Pélagie, mais celle-ci avait omis un détail. Au lieu du bellâtre campagnard qu'il croyait devoir rencontrer, C'était un homme intelligent et sympathique qu'il avait devant lui. Voici un défenseur, en tout cas, continua Madame Bajarov, et qui ne me laissera pas enlever sans coup férir. Nicolas Markov, mon fils d'amitié, Monsieur Malissov, mon voisin et ami. Les deux hommes se serrèrent la main. Markov sans mot dire, Malissov avec une phrase aimable. Et pourquoi êtes-vous si beau? Reprit l'impitoyable Madame Bajarov. De qui voulez-vous tenter la conquête si ce n'est de moi? Faut-il que j'envoie chercher Pélagie? Les regards des trois personnes présentes, car le général ne comptait pas, se croisèrent avec un demi-sourire qui les mit tout de suite à l'aise. Rien ne rend plus sociable que de se moquer en commun de la même personne. Mais veuillez m'excuser, dit en riant Malissov, c'est une distraction. Je pensais à autre chose en faisant ma toilette. Oh, souvenir des capitales, dit Madame Bajarov d'un ton plein d'indulgence. Ce que c'est que les mauvaises habitudes, il en reste toujours quelque chose. On vient voir une vieille propriétaire de campagne et on s'habille comme pour aller à l'opéra. Vous me faites rougir. Je ne le ferai plus, dit Malissov. Pardonnez-moi pour cette fois. Allez en paix. Et maintenant, quel bon vent vous amène? Mais le plaisir de vous voir, répondit galamment le diplomate, en baisant la bonne vieille main de Madame Bajarov. Pendant que le général dormait, on parla de tout. Markov était aussi instruit qu'on peut l'être à 23 ans. Un peu trop de précision dans les jugements, quelques notions erronées, un peu de parti pris dans quelques questions spéciales. Reste de l'école et des leçons de professeur. Mais une certaine largeur dans les vues d'ensemble, la généreuse chaleur de la jeunesse et par-dessus tout, le désir d'être utile, tel était le jeune Markov. Ses qualités, jointes à ce que Pélagie avait révélé de sa réserve à l'endroit des dames de province, le rendaient intéressant aux yeux de Malissov, toujours porté par habitude à scruter ce qu'il rencontrait. Après 1 heure ou 2 de conversation et un plantureux dîner campagnard, la compagnie se dispersa dans tous les coins et Malissov se trouva enfin en tête à tête avec sa vieille amie. « Qu'étiez-vous venu me demander ?» lui dit celle-ci. « Je me suis moqué de vous parce que c'est plus fort que moi, vous le savez. Mais au fond, si je puis quelque chose... »« Bon, je le sais, merci !» murmura le diplomate. Il rumina quelques instants sa pensée, regarda la bonne dame et finit par lui décocher à brûle-pourpoint la phrase que voici. « Suis-je trop vieux pour me marier ?»« Ah, je savais bien qu'il retournait mariage, » fit-elle d'un air triomphant. « Mais mon ami, je ne suis pas veuve. J'espère que vous n'avez plus l'intention de tuer le général pour n'épouser ensuite. » Malissov fit un signe de tête rassurant. « Mais que voulez-vous donc, qui voulez-vous donc épouser ?» reprit Madame Bajarov, enchantée au fond de sa perspicacité. « Oh, je vous le dirai plus tard. Dites-moi d'abord si je suis trop vieux pour me marier. »« mais non, vous avez 39 ans et 7 mois. »« Donc, vous n'avez pas atteint la quarantaine ?» Tournez-vous que je vois votre crâne. Mais une forêt de cheveux devant et derrière. Oh, il y en a de blancs, fit observer timidement Malissov. Tant que vous ne l'éteindrez pas, personne ne s'en apercevra, dit Madame Pajarov d'un ton plein d'autorité. Quelle fortune! Vaut une 30 000 roubles de revenus, bon an mal an. Ah, vous voulez probablement épouser la reine de Golconde ou la fille du Tycoon. Non, 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 je ne vise pas si haut, une simple mortelle me suffira. Fort bien, et votre caractère? Indécis, mais assez commode. Pas de fantaisie bizarre. Et un excellent cœur. Oh, pour les principes, je n'en parle pas, puisque vous avez l'intention de vous marier. C'est comme le baptême du feu, le mariage. Ça purifie tout. Amen. Eh bien, mon cher, mariez-vous. Malissoff ne répondait pas. Mariez-vous, en général, conclut Madame Pajarov, puisque paraît-il, vous n'avez pas l'intention de vous marier d'une façon moins vague. Oh, il y a quelque chose de plus précis, hasarda Malissoff. Ah, peut-on savoir? C'est Eugénie Berlaguine, dit-il, en surmontant une timidité du jeune premier de votre ville, tout à fait malséante chez un diplomate. Elle est fort bien, dit Madame Pajarov, après un silence qui avait paru long en postulant. Jolie, bien faite, bonne enfant, spirituelle. Oh, je l'aime beaucoup, moi, conclut-elle. Et lui souhaitez-vous d'être ma femme? De tout mon cœur, s'écria la vieille dame avec effusion. Et moi, me souhaitez-vous d'être son mari? Si elle vous aime, certes. Mais pourquoi n'aimerait-elle pas? Avec le temps. Bon, jusqu'ici, je n'ai pas tenté de lui plaire, mais. Essayez, mon ami. Cependant, moi aussi, je vous dirai mais. Connaîtriez-vous quelque raison? Dit Malissov, devenu très pâle, en se levant soudain. Oh, je ne connais rien du tout. Interrogez-la, je la crois très sincère. Vous saurez tout de suite ce que vous pouvez espérer. Pensez-vous que sa mère me l'accorde? Madame Pajarov se laissa aller dans son fauteuil en riant de ce rire tranquille de vieillards qui ont beaucoup vu et qui connaissent la nature humaine. Soyez tranquille, dit-elle. Si vous voyez Madame Berlaguine refuser sa fille à un homme qui a 30 000 roubles de revenus, vous pourrez vous vanter d'avoir vu une chose unique en son genre. Mais je ne voudrais pourtant pas être épousé uniquement pour ma fortune, dit Malissoff, plein d'angoisse à cette idée. Mais adressez-vous à Eugénie elle-même. Elle est sincère, vous dis-je. Oh, vous pouvez croire ce qu'elle vous dira. Je suivrai votre conseil, dit Malissoff, et je vous en remercie. À mon tour, reprit la vieille dame, voulez-vous faire quelque chose pour moi? Et tout ce que vous voudrez. Tâchez de caser Markov quelque part. Il est très capable. On ne l'aime guère ici. Il est trop distingué pour notre monde. Oh, je crois que vous n'aurez pas de plainte sur son compte. Malissoff promit de s'en occuper, et dès le lendemain, en effet, après avoir causé toute la soirée avec le jeune homme, il expédia 2 ou 3 lettres à certains de ses amis, dont la puissance et la bonne volonté lui étaient connues. Quelques jours s'écoulèrent de ces jours malins qui semblent prendre plaisir à contrecarrer les projets des faibles mortels. Il fit un temps abominable. Puis les travaux des champs nécessitèrent une surveillance particulière, et c'est ce moment-là que l'intendant de Malissoff choisit pour tomber malade. Notre ami passa de tristes soirées seul dans le petit salon de sa mère à interroger l'avenir et à douter du bonheur. Chacun n'a-t-il pas fait sur lui-même l'expérience que, par les jours de pluie, l'âme est spécialement disposée aux impressions mélancoliques. Enfin, le soleil sortit des nuages et Malissoff fit atteler pour se rendre chez Madame Berlaguine. C'était un dimanche soir vers 6 heures. La terre, reposée par les pluies, reverdissait de toutes parts. Le regain promettait d'être superbe et la moisson rentrée mettait au cœur des paysans une sécurité qui se reflétait sur leur visage. Malissoff traversait les villages prospères où les enfants barbotaient dans les flaques d'eau, vestige des ondées précédentes. Les vieillards, assis sur les bancs de bois devant les cabanes, regardaient s'ébattre la jeunesse. On avait accroché au madrier la longue balançoire sur laquelle s'entassent les fillettes en chantant en chœur, pendant que les garçons, vêtus de chemises rouges, le chapeau de feutre rond et plat, couronné de plumes de paon, fièrement campé sur l'oreille, les balancent doucement en mesure des heures entières. Malissoff regardait en passant ces tableaux de la vie agreste et se demandait si le bonheur de ces hommes n'était pas supérieur à celui des citadins quand ils atteignent à grand-peine quelque but d'ambition ou d'intérêt. Il se sentait redevenir simple, lui aussi, au milieu de cette simple nature, et Eugénie lui parut 100 fois plus aimable encore quand elle lui apparut à la fenêtre du salon de sa mère, au milieu des arbustes verts qui encadraient la façade. À peine descendu de voiture, il remarqua sur les traits de la jeune fille un air de tristesse qui ne lui était pas habituel. Elle avait pleuré, car ses yeux étaient légèrement battus, et quelques rougeurs marbraient ses joues veloutées. Après les questions préliminaires, Malissoff essaya de s'enquérir discrètement de ce qui avait pu arriver dans la journée. Mais Madame Berlaguin ne se laissa point penserser. Elle aussi avait quelque chose d'insolite dans son apparence. Sa rudesse naturelle, ordinairement cachée sous une épaisse couche de politesse affectueuse, se laissait deviner plus qu'il n'eût fallu. De plus, au lieu de se livrer, comme de coutume, à des allées et venues sans fin pour les devoirs de l'hospitalité, elle ne quittait pas le salon. Elle surveillait attentivement sa fille avec des yeux sévères. Malissoff était fort intrigué, mais pour cette fois, toutes ses finesses diplomatiques paraissaient devoir être perdues. Enfin, Madame Berlaguin sortit du salon, et avant qu'il eût le temps d'ouvrir la bouche, elle appela sa fille au dehors. Eugénie obéit et, s'excusant d'un mot, abandonna le diplomate à ses perplexités. Un moment, il eut envie de prendre son chapeau et de s'en aller. Mais la vue de la disgrâce où Eugénie était évidemment tombée lui inspira la pensée qu'il pourrait être utile, et il resta. Un chuchotement irrité dans la pièce voisine indiquait que Madame Berlaguin grondait sa fille. Ben, on a beau ne pas vouloir écouter en de pareils cas, l'oreille se tend d'elle-même et acquiert une acuité prodigieuse, tout à fait involontaire. Il entendit donc, sans préméditation aucune, cette phrase qui semblait terminer une longue admonestation. « Mais je ne veux pas de lui, entendez-vous, et vous ferez ce que je vous ai commandé, sans quoi je vous mettrai en pension à l'étranger, et vous ne me reverrez jamais. » Eugénie rentra presque immédiatement. Elle était devenue très pâle, ses yeux semblaient agrandis. Elle marchait péniblement, les mains pendantes. Malissoff se leva pour courir à elle. D'un geste, elle l'arrêta. Élevant sur lui ses yeux pleins d'un feu sombre, « Voulez-vous faire un tour de jardin, monsieur ?» lui dit-elle. Il s'inclina en silence et la suivit. Elle se dirigea vers le vieux bosquet, entra sous le couvert des grands tilleuls et s'assit sur un banc de bois vermoulu qui faisait le tour de la rotonde. « Vous avez du chagrin, mademoiselle, » dit Malissoff, profondément remué à la vue de ce désespoir digne et muet. « Oui, » répondit-elle, et ses grands yeux se fixèrent un instant sur lui, pour retomber ensuite morne et éteint vers la terre. « Mais vous ne pouvez pas ignorer combien je vous suis attaché, » reprit Malissoff. « Parlez-moi franchement. Dites-moi si je puis quelque chose pour vous. » Elle le regarda, puis baissa la tête et ne répondit pas. « Mais je vous aime, » dit-il. Il se reprit, car la circonstance lui paraissait peu propre à un aveu d'amour. « Mais je vous aime tendrement, je serai pour vous un ami véritable, le meilleur, le plus sûr. »« Est-ce vrai ? » fit-elle avec une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. Le soleil traversait horizontalement le bosquet. Ses rayons entraient par la porte taillée dans la verdure et jetaient un large faisceau lumineux sur le gravier. Toute la nature était en fête. La gaieté des beaux soirs d'été se répandait jusque sur l'herbe où bruissaient les cigales. Anton Pietrovitch se leva et s'approcha d'Eugénie. « Mais le meilleur ami, reprit-il, le plus sûr, je vous aime plus que moi-même. Je ne peux pas vous voir souffrir. Confiez-vous à moi, mon enfant. » À mesure qu'il parlait, il sentait une douleur amère lui mordre le cœur. Le chagrin d'Eugénie n'était pas un chagrin puéril. Quelle cause, alors, avait altéré si profondément ce doux visage? Le mot « mon enfant » vint à ses lèvres, naturellement, mais avec un arrière-goût d'amertume. Eugénie le regarda longuement, scrutant ses traits. Il était debout devant elle, attendant sa réponse. Elle se jeta dans ses bras, blottit sa tête sur le cœur de Malissoff et se mit à pleurer. Il la tenait serrée contre lui. C'était elle qu'il avait rêvé de nommer sa femme, et elle s'abandonnait en toute confiance, et pourtant, non seulement elle ne ressentait pas de joie, mais il éprouva un déchirement douloureux qu'il savoura un moment avec une sorte de volupté amère. « C'est donc là le bonheur qui m'était réservé, » se dit-il. Il fit asseoir la jeune fille auprès de lui sur le banc, prit une de ses mains dans les deux siennes et lui parla d'une voix douce et caressante. « Écoutez-moi vos peines, » lui dit-il, « ayez confiance. »« Vous m'aimez, vous, » dit-elle en levant vers lui son visage inondé de larmes. « Ma mère ne m'aime pas. Elle n'aime que son orgueil et son ambition. » « Calmez-vous, » interrompit Malissoff. « Votre mère ne vous aime pas comme vous désirez être aimée, et pourtant elle a pour vous une grande affection. »« Mais elle veut me voir riche, occupant un haut rang. Ces choses ne sont pas faites pour moi. Je ne les aime pas. » Malissoff soupira. Elle était bien telle qu'il la voulait. Fallait-il que cette fleur des champs ne souffrît pas dans son jardin ? Depuis que vous êtes venu, reprit Eugénie, ma vie a été très dure. Avant, tout allait bien, on me laissait tranquille, et depuis... Elle rougit, s'arrêta, et voulut dégager sa main que Malissoff retint doucement en lui disant... Oui, on m'a considéré dans le pays comme un parti convenable, et on a voulu vous forcer à m'envisager de même. Oui, répondit-elle, rassurée, en se voyant comprise, on m'a ordonné d'être aimable avec vous. Ce n'était pas difficile, ajouta-t-elle avec un sourire angélique qui toucha Malissoff presque jusqu'aux larmes. Vous êtes si bon, mais ce n'était pas ce qu'on voulait de moi. On voulait me voir coquette, on me reprochait de ne pas chercher à vous plaire. C'était une bien plus sûre coquetterie, dit Malissoff à voix basse. Elle le regarda, étonnée. Il sourit et lui fit signe de continuer. Mais je ne voulais pas vous plaire, moi, dit-elle en s'animant. Je trouve que c'est mal de donner des espérances que l'on ne veut pas réaliser. « Et puis, quand bien même vous m'auriez préféré aux autres. » Elle rougit et perdit contenance, puis reprit. « Moi, je ne pouvais pas, n'était pas. Elle retira vivement ses deux mains et en couvrit son visage. Ah, vous aimez quelqu'un et vous lui avez promis de l'épouser, dit Malissoff sans émotion apparente. Depuis le commencement de leur entretien, il s'était préparé peu à peu à cet aveu, et le choc lui fut à peine sensible. « Oui, dit-elle avec feu, j'aime Nicolas Markov. Vous l'avez vu, vous avez pu vous apercevoir de ce qu'il vaut, mais vous ne savez pas quel cœur est le sien. Personne ne le sait, excepté moi. Depuis 2 ans, il travaille pour moi. Il se prépare une position, il passe les jours et les nuits au travail. À force de courage et de patience, il a obtenu une place dans l'administration des chemins de fer. Oh, une petite place, c'est vrai, mais enfin, de quoi vivre? Il n'a rien, continua-t-elle, en tournant vers Malikov son visage ingénu, resplendissant d'orgueil féminin. Son père a vendu son bien l'année dernière. C'était Nicolas qui le lui avait conseillé pour payer de vieilles dettes, des dettes du temps où il était hussard. « Mon père, lui disait-il, je ne pourrais pas manger une bouchée du pain que vous récoltez sur vos terres tant que vos créanciers ne seront pas désintéressés. »« Oh, il y en avait de ces créanciers qui avaient depuis longtemps renoncé à leur argent. » Devenus tout à fait pauvres, ils ne se souvenaient plus du vieux Markov que pour le blâmer comme un malhonnête homme. Eh bien, Nicolas n'a pas voulu qu'une âme au monde pût dire un mot contre son père. On a vendu le bien et tout est payé. Le vieillard vit une petite rente qu'il s'est conservée et qui mourra avec lui. Mais Nicolas n'a plus rien, rien que sa grande âme et son intelligence. Et quand il est venu tantôt me demander à ma mère l'a chassé. Oui, Anton Petrovitch, elle l'a chassé, parce qu'il est pauvre. Et je l'aime, moi, cet homme pauvre. Et je serai sa femme, ou bien je mourrai. Elle s'était levée, et l'indignation la grandissait d'une coudée. Malissoff la regarda longtemps, puis l'attira à lui par les deux mains et déposa un baiser paternel sur son front. « Vous serez sa femme, je vous le promets, et vous vivrez de longues années. »« Oh !» s'écria-t-elle en lui jetant soudain ses deux bras autour du cou. « Comme je vous aime ! Oh, je vous aime comme un père !»« Comme un père !» Hélas ! Pendant qu'il lissait de sa main paternelle les beaux cheveux dérangés dans ce brusque mouvement, une larme unique et brûlante tomba sur la tête inclinée d'Eugénie. Elle ne la sentit pas et rien ne troubla sa joie. « Qu'est-ce que nous allons dire à ma mère ? » reprit-elle au bout d'un moment. « Oh, dites-lui que je vous ai témoigné beaucoup d'estime et d'affection. » Et que j'ai l'intention de revenir bientôt pour parler avec elle d'affaires sérieuses, répondit Malissoff, redevenu diplomate. Elle le regarda d'abord d'un air de doute, puis comprit et sourit. Une réflexion lui vint cependant et la rendit sérieuse. Mais vous, Anton Petrovitch, dit-elle, on disait que vous vouliez vous marier. « Mais je serai parfaitement heureux si vous êtes heureuse, » lui dit-il en toute sincérité. « Allez, maintenant, rentrons. » Le cœur maternel de Madame Berlaguin s'épanouit ce jour-là d'une manière inusitée. L'entente la plus cordiale régnait entre la fille et le riche prétendu. Ils se souriaient à travers la table, s'envoyaient des regards émus. Le timbre même de leur voix avait quelque chose de tendre et de vibrant. Quand Malissoff fut parti, la bonne mère interrogea sa fille. Mais celle-ci n'avait pas l'habitude de faire des réponses détaillées et ne put obtenir d'autres renseignements que les phrases convenues avec le diplomate.